RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui l'avocat Charles Consigny, Flora Gebali, entrepreneur de la transition écologique. Nous sommes avec le normalien et professeur de philosophie, Jean-Loup Bonamy. C'est la troisième heure des GG des grandes gueules. Du coup, que va-t-il se passer? Pardon, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Notre invité, c'est le député MoDem, Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que Gérald Darmanin aurait dû présenter sa démission?
Non. Moi, j'étais député quand il était ministre de l'Intérieur. Ça répondait quand j'avais besoin de lui. Et donc, je pense qu'il est l'homme de la situation. On verra ce qu'il fera après. Il sera jugé après. Mais en tout cas, c'est un pragmatique. Moi, je l'ai eu comme ministre de l'Intérieur. Et quand j'avais besoin de lui... il était là. Je vais vous donner un exemple très concret. On aide une jeune femme, elle s'est fait lacérer au cutter, elle arrive au commissariat à Orléans, et à l'époque, elle dit « je vais porter plainte ». On lui dit non. Elle dit « je connais le député ». La réponse est « et moi je connais le pape ». J'ai appelé Gérald, on a réglé le problème. Et donc je pense que...
Donc il faut appeler, il faut connaître le
député.
Mais c'est ça le problème.
Le ministre, pour que sa plainte soit entendue.
Et je vais vous donner plein.
C'est tragique ce
que
vous
nous racontez. C'est tragique. C'est pour ça qu'on porte une part de responsabilité. Je vais vous donner un autre exemple. Là, il y a 15 jours, c'est avant les événements. Vous pourrez venir en circo regarder.
La mort de Liana, c'est ce que vous
voulez dire. Oui, la mort de Liana. Une jeune fille, dans ma circo, abusée dans le domicile familial, par un proche. Le type, il est mis en prison. Je demande, le père m'appelle. Il me dit, Richard, monsieur le député, elle veut changer d'appartement. Vous imaginez que c'est quand même normal qu'elle veuille changer d'appartement là où elle s'est fait abuser. Et les logements sociaux, ils n'en ont rien à faire que je sois député ou pas député. On me dit, mais ça va être long. Mais non, c'est un logement prioritaire qu'il faut lui donner.
Oui, enfin, c'est pas du tout dans votre mission de faire ça.
Mais si, c'est notre mission. Moi, je suis député de terrain. Je suis député d'abord de circonscription.
Mais c'est ma mission. Écrit par qui?
Je suis par moi. Parce que je suis la courroie de transmission des relations de ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Arrêtez de penser que c'est que des textes qui servent à rien. On est nous sur le terrain. On est des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont pas de solution.
Non,
c'est d'abord ça
le député. Vous soyez désemparés, mais dans ce cas, il faut changer la loi.
Comédien, vous êtes de
Venez avec moi. On prend date. Vous venez avec moi 15 jours. On verra
monsieur
si c'est
Ramos,
une comédien.
15 jours, c'est long.
Monsieur le député,
je ne vous souhaite pas 15 jours avec Jean-Loup Bonamy.
Moi non plus.
Mettez à la limite 15 minutes.
Non.
Oui, mais attendez, parce que là, on parle de quelque chose.
Monsieur Ramos, je comprends que vous soyez absolument indigné par la situation. Non. On l'est tous, qu'on soit député ou qu'on soit un simple citoyen. Vous avez plus de pouvoir que nous pour changer les choses. Et là, vous dites, vous faites la justice tout seul dans votre circo. Mais personne ne vous a demandé de faire ça, puisque dans la loi, c'est pas votre mission et c'est pas votre mandat.
Si,
en revanche,
si.
Votre mandat, c'est de faire la loi. Sauf que vous n'êtes pas foutu de trouver des majorités à l'Assemblée pour faire passer la loi intégrale qui est demandée par le terrain et qui est demandée par 100 associations et plus de 110 députés. Vous n'êtes pas foutu de dépasser vos guerres d'ego pour dire Attal ou Philippe, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est une loi efficace pour les victimes. Vous n'êtes pas foutu de dépasser. Et je vous parle à vous en tant que député, mais je dirais la même chose à toute la classe politique aujourd'hui. Vous n'êtes pas capable de légiférer sur des sujets qui font l'absolu consensus, comme mettre les pédocriminels en prison. Tiens, il n'y a pas de clivage là-dedans, on est tous d'accord. Donc en fait, comme vous n'êtes pas capable de faire votre travail, vous essayez de trouver à Madame X ou Monsieur Y un logement social. Non, c'est de la faute des députés, mais vu que Monsieur arrive en nous expliquant qu'il est le grand justicier de sa circonscription.
J'ai pas dit ça.
Moi, je lui réponds, il est écrit noir sur blanc que votre métier, c'est de faire la loi.
Donc faites-la. Vous vous dites que députés, ils surjouent, etc. Nous, on a le droit en circonscription d'avoir des vrais gens dans notre circonscription qui pleurent dans notre bureau. Et c'est pas surjoué de dire ça. Donc je vous permets pas, quand on essaie de défendre un cas, c'est vrai que madame a la raison, qu'on n'est pas foutu à l'Assemblée nationale de se mettre d'accord sur ce qui devrait être la protection de 15 millions de gens. Mais vous pouvez pas dire qu'on surjoue quand des députés, quel que soit le bord politique en circo, ils ont des vies. Quand vous savez ce qui nous donne encore le jus ? Aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est parce que concrètement, on arrive à régler mais un cas, un deuxième cas.
Ah, mais je remarque comment vous avez réussi.
Je comprends pas pourquoi vous faites le procès du député Ramos.
Vraiment, c'est un opticien qui faudrait dingo.
Non, mais c'est dingo.
Non, mais parce que je remarque qu'en citant.
Vous faites le procès de Ramos qui arrive, qui dit moi, j'essaie à mon échelle de régler des problèmes et vous lui reprochez ça.
Ah bah, c'est extraordinaire. Ah bah non, attends, on va faire le résumé. Moi, je remarque que
mais même si vous voulez pas la démission d'Darmanin,
Ramos, c'est un excellent député, Richard Ramos,
qui nous raconte des affaires très dures qu'il vit sur le terrain et puis qui s'agite beaucoup, qui crie beaucoup. Tout ça nous a permis.
On s'agite pas, monsieur. Respectez les gens qui viennent nous voir. On ne s'agite pas.
Tout ça vous a permis d'esquiver la question de départ sur la démission de Gérald Darmanin.
Mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Arrêtez de raconter des conneries. J'ai commencé par répondre non, il faut pas qu'il démissionne.
Alors, donc, mais
il y a peut-être plein de Français qui veulent qu'il démissionne. Moi, je dis que
13 minutes, on ne parle plus des dysfonctionnements.
Arrêtez de raconter des conneries.
Voilà, 13 minutes, on ne parle plus des dysfonctionnements.
Bon, on va essayer d'avancer. Monsieur le député, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'effectivement, l'indignation, elle est générale. Elle est partagée par tous les Français. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Monsieur Darmanin dit il faut examiner les 70 000 dossiers en souffrance jusqu'au 14 juillet. Monsieur Le Cornu propose d'être plus sévère dans la loi avec une perpétuité réelle. Il y a plein de.
Et puis il y a cette loi intégrale.
Il y a la loi intégrale également.
Moi, je est-ce prends ma part simplement de ce que disait l'été. Ce que disait madame de notre incapacité avec ce il y a pas de majorité donc c'est les Français aussi qui l'ont voulu hein et donc c'est le bordel surtout sauf que sur ce cas-là moi je pense que le Premier ministre doit réunir l'ensemble des présidents de groupe tous les présidents de groupe et qu'on arrive à trouver un chemin qui est dans l'intérêt des 15 millions de gens à protéger. Voilà. Et puis derrière avec des avocats, avec des procureurs,
15 millions c'est les 15 millions d'enfants, c'est
oui, exactement. Voilà, il y a 15 millions de cette jeunesse qu'il faut protéger qui est fragile et qui peut arriver quelque chose et voilà. Et donc je pense qu'il faut à l'Assemblée nationale trouver un consensus. Je pense que c'est
vous
à
vous y croyez à quelques mois d'une présidentielle.
Je peux y croire parce que beaucoup de gens ont pensé que cette affaire-là était un fait divers. Mais c'est pas un fait divers.
Non, c'est devenu un fait de société.
C'est un fait de société. Mais
personne ne croit que c'est un fait divers. Non, mais, il y a la France est dans la rue.
Oui, mais de Monsieur temps en temps, Ramos... pardon, les politiques, on n'a pas bien réagi. Les premières heures, on n'a pas pris la mesure de ce qu'était ce fait de société.
Mais en fait,
concret.
Peu importe. En fait, est-ce que vous vous rendez compte à quel point la société se joue à double niveau? Oui. Il y a le terrain, c'est-à-dire cette enfant qui est morte. C'est pas la première, ce sera pas la dernière. On le sait tous. Et dans la rue, les gens qui vont manifester, c'est pour la plupart des gens qui ont été eux-mêmes victimes d'agression ou d'inceste. D'accord ? Ça, c'est une réalité. Et à côté, il y a une classe politique qui nous explique, même dans votre groupe, le Bloc Central, que ça, c'est pas le Modem, c'est pas la même chose que la Macronie. La Macronie, elle change de nom tous les mois, je sais même plus comment elle s'appelle en ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave ?
Mais vous
m'expliquez que vous essayez d'aider Madame X ou Monsieur
Y. On va pas y revenir.
Mais c'est tellement grave.
Moi, pardon, vous m'avez.
Pourquoi vous essayez pas d'aller trouver des majorités?
C'est ce qu'il vient de dire. Alors, à l'échelle individuelle, qu'est-ce que vous pensez de la loi intégrale?
Moi, je vais vous dire, je suis pour la loi intégrale.
La loi intégrale. D'accord. Vous avez signé
quelque chose.
Vous avez signé.
J'ai été le député qui a signé des textes. Avec le RN, je me ferai traiter de fasciste. Je signe avec la gauche, je me fais traiter de gauchiste. Donc,
qu'elle apporte cette loi intégrale? Parce que je pense que les gens n'ont pas encore saisi. C'est quoi la loi intégrale?
Je pense que sur la loi intégrale, il nous faut absolument mettre tous les ministères. C'est quoi une loi intégrale? C'est une loi qui prend plusieurs ministères ensemble pour faire une loi, alors que d'habitude on est sur une loi, on va dire en silo, pour qu'on comprenne bien.
Oui,
et donc derrière, ça veut dire que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé doivent se mettre ensemble pour faire une loi qui réponde à l'ensemble de la problématique, notamment
ce qui va arriver. Encore une nouvelle loi.
Ah, mais alors, vous avez raison, mais. On n'a pas pris cette mesure.
Les lois existent.
On voit l'ASE, par exemple. Sur l'ASE, c'est ce qui va venir derrière encore avec
l'ASE. C'est un scandale. Nous, on avait reçu ici un journaliste qui a fait une enquête accablante sur l'aide sociale à l'enfance.
Je ne vais pas donner, puisque ma femme est agréée par l'ASE, et donc on en a reçu à la maison. On les ramène ensuite dans les familles. Là aussi, faisons en sorte que, avant qu'il arrive encore, il y a déjà des drames dans l'ASE. Mais prenons un mail. Alors,
mais pourquoi on le fait pas? Qu'est-ce qui manquait jusqu'à présent? Parce que ce sont des enfants. Les enfants, ça vote pas, ça ne manifeste pas. Électoralement, c'est pas forcément payant.
Non, moi je le dis. Vous savez, c'est très simple. Dans quelques mois, on aura des élections, et je pense que ceux qui seront comme moi dans la majorité présidentielle depuis quelques années, on ne sera pas réélu parce qu'on ne méritera pas forcément d'être réélu sur ce qu'on a fait au national. On a quelque chose qui a été de l'ordre d'une espèce de voiture France, auquel quand on monte dedans, il y a tout, il y a le volant, il y a le frein, il y a l'accélérateur, mais il n'y a plus de câblerie. C'est-à-dire que c'est comme si tout était là, mais il n'y a pas de câblerie pour faire marcher tout ça. Et plus on fait de l'interministériel, moins ça marche. Alors qu'il y a des endroits, c'est des endroits, etc. Et puis peut-être, pardon, de défendre les députés, quel que soit leur bord. Nous, dans la justice, là, on n'a pas le droit d'intervenir.
Non.
Alors on essaie d'intervenir un peu. Mais le couple, aujourd'hui, un préfet, par exemple, ne parle quasiment plus à un député, juste pour des inaugurations ou quelques réunions bienveillantes. Il va parler à un président de région parce qu'il n'y a plus le cumul. Et donc, le rôle même du député est à remettre en cause dans sa relation avec le préfet. Moi, on sait très bien que les préfets, ils ont des relations avec les procs et que les procs appellent les préfets. On le sait sur le terrain, même si c'est pas dit, c'est la réalité. Eh bien, faisons en sorte que nous, quand on remonte peut-être au préfet, pas au proc directement des choses, les choses soient concrètement sur le terrain qu'on puisse
tout
le faire.
Réformer de fond en comble.
Mais alors, je pense, comme on l'a pas fait depuis 9 ans. Et comme on l'a pas fait depuis 9 ans.
Et qu'on vous le ferez pas dans l'année qui vient.
Non, on fera pas dans l'année.
Soyons clairs vis-à-vis des Français, monsieur Ramos. Là, il y a l'élection présidentielle qui arrive, il n'y a pas de majorité, il va rien se passer, vous allez expédier des affaires courantes. On est d'accord.
Oui, alors,
j'ai le langage de vérité.
J'ai toujours essayé de dire.
Il va rien se passer d'ici l'élection présidentielle.
Vous avez, mais je pense qu'on peut-être, sur des sujets qui, là, celui-là, par exemple, avec l'affaire Layana.
Il faut une session extraordinaire. Voilà. Est-ce qu'elle peut avoir lieu, cette session extraordinaire?
Moi, je dis qu'il faut qu'elle ait lieu. Il faut qu'elle ait lieu le plus rapidement possible.
Y compris Sénat.
Évidemment, parce qu'on remette pas après au Sénat, après l'été, par exemple. Il faut qu'on aille très vite.
Il y aura les élections sénatoriales. Donc, il faut le faire maintenant.
Il faut qu'on aille très vite.
Et
s'il faut siéger cet été, on doit siéger cet été.
D'accord. Jean-Louis Bonamy, quelque chose à ajouter?
Il y avait une promesse.
Attention à ne pas dire de conneries quand même.
Il y avait
on écoute.
Il y avait une promesse du candidat Emmanuel Macron en 2017 qui était justement de construire les places de prison, de construire des places de prison supplémentaires. Ces places en 9 ans n'ont absolument pas été construites, une toute petite partie dérisoire, ce qui fait qu'en fait la justice gère, vous le savez très bien, la pénurie. Alors pourquoi cette promesse en 9 ans, qui est une promesse quand même fondamentale, n'a pas été tenue très loin de là?
Parce qu'on n'a pas voulu y mettre les moyens, parce que des fois dans les villes, les gens voulaient pas de prison. C'est-à-dire que les mêmes maires qui hurlent au micro, et quand on leur dit on va mettre une prison dans ta ville, ils en veulent pas. Et derrière, il y a toute cette norme qui fait que pour construire une prison, il fallait 6, 7, 8 ans. Voilà. Et puis après, parce que il y a eu des promesses du président qui n'ont pas été tenues, et c'est pour ça que les gens en veulent à ce président. Mais vous avez vu quand même qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice a réussi, avec des prisons moins chères, plus rapides, à essayer d'aller plus vite que les autres.
Mais est-ce que votre message, c'est de dire en 2027, du coup, on a échoué, donc votez pour Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen?
Non, je dis pas du tout ça, moi.
Non, c'est pas votre message? Vous venez de nous dire qu'en 9 ans, vous n'avez rien fait. Je veux pas... Vous continuez
à
croire au principe du « en même temps », c'est-à-dire les meilleurs à gauche, à droite?
Je crois que...
Les meilleurs, là, on les cherche. Plus que ça veut dire, les meilleurs.
En tout cas, si demain je ne croyais plus à essayer de faire quelque chose, j'arrêterais. C'est ça la réalité.
Non, mais pour la prochaine présidentielle.
Mais pour la prochaine présidentielle, il faut arrêter.
Vous avez votre candidat?
Non, mais non, mais moi, j'ai aujourd'hui à date, j'ai personne en qui j'ai envie de rouler.
Votre président, François Bayrou, a fait une déclaration de non-candidature. C'est assez original, parce que aujourd'hui, tous les deux jours, il y a un nouveau candidat. Je crois qu'on en est à 38.
Il y a plus de candidats que de Français.
Voilà, il y a quasiment plus de candidats que d'électeurs ou de gens qui ont vraiment envie de voter. Et là, lui, il est pas candidat. Donc, vous êtes orphelin. Vous avez plus de candidat.
Non, moi, je le dis, j'ai pas à date, j'ai pas quelqu'un sur lequel je me dis j'ai envie d'y aller, quoi. Je le dis très
sincèrement. Ni Édouard Philippe, ni Gabriel Attal.
Non. Je à date, ça me donne pas envie. Je le dis très sincèrement. Ça me donne pas envie.
Même Jérôme Guedj, par exemple. Vous faites monter les enchères.
Mais monsieur Ramos.
Non, je fais pas monter les enchères. C'est que il y a des choses, je veux pas faire la littérature de ce qui a marché, parce qu'il y a eu des choses qui ont marché. Quand on regarde le nombre de plaintes qui a été déposées, qui ont été instruites, ça a progressé, mais pas assez vite. Et donc je veux pas faire celui qui dit regardez, ça a marché, voilà ce qu'on a fait. Et puis en plus, je pense que il faut monter un collectif. On a dit depuis 9 ans, Macron, Jupiter, machin, etc. Et on commande sur les micros comme quoi il va falloir trouver un nouveau Jupiter. Moi, je voudrais que, et je pense pas d'ailleurs que c'est les.
Bah parce que la Ve République, c'est ça.
Oui, mais je sais bien, mais je sais bien.
Tous les 5 ans, pardon, Jupiter. Pardon,
je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est pas ce que je mets dans le programme, c'est comment je rétablis la confiance entre une classe politique et des gens qui n'y croient plus.
Dernière question, non, Charles Consigny.
Non, je sais pas si c'est une question, c'est plus un constat. Je crains quand même, je suis sûr que vous êtes un élu d'excellente qualité, vous avez une excellente réputation, mais on voit que là, la Macronie termine en eau de boudin, en réalité. Le bloc Lambeau. Central termine en haillon. Et ça se finit mal parce que ça ne pouvait finir en réalité que comme ça. La destruction des clivages politiques au sein de ce qu'on appelle pompeusement l'arc républicain, ça aboutit forcément à ce qu'en fait, les extrêmes prennent une place énorme et de plus en plus grande. Et donc là, sauf miracle, on va vers un affrontement extrême droite, extrême gauche. Et malheureusement, ce sera ça le résultat du dépassement. Donc, est-ce que le centrisme, c'est pas une connerie quand même?
Je sais pas moi qui donne des bons points, M. Consigny, mais la question, elle est bonne. Moi, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que moi-même, je pensais que dans cet espace que vous central ou modéré, on pouvait faire travailler des gens qui pensaient pas tout à fait la même chose. Et derrière, c'est ce bloc-là. C'est une bêtise parce que ça a fait ce que vous avez dit. Mais j'y ai cru, moi. En 2017, j'y croyais à ça. Je croyais que des gens qui pensaient pas tout à fait la même chose. Mais en fait,
désormais, les oppositions se sont radicalisées.
En fait, ça a fait monter les deux blocs, comme vous le décrivez. Et au milieu, c'est la course des petits chevaux pour la présidentielle. Et surtout, pardon, je suis un laïc, etc., mais je suis un amoureux de la vie de Jésus. Et donc, derrière, j'avais quelques valeurs démocrates chrétiennes qui étaient mon parti politique. Et tout ça, c'est des courses de petits chevaux avec des gens dans un truc qui est gazeux. C'est-à-dire l'espace central aujourd'hui, c'est un espace gazeux.
On sait pas ce qu'ils pensent, c'est ça que vous voulez
donc,
dire.
Non, on sait pas ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, ils pensent pas du tout la même chose. Parfois même, il peut y avoir des gens, j'ai dit qu'il y avait deux candidats qui ressemblaient à des vases, où c'est beau, c'est joli, ça se déplace, mais le principe d'un vase, c'est que c'est creux à l'intérieur.
Merci, voilà. Monsieur le député Ramos, d'être venu parler avec les GG, avec les grandes gueules.
C'est une vraie grande gueule.
Il est 11h20 dans un instant.
Vous avez une reconversion possible.
90 ans de congés payés. On fait l'anniversaire. 90 ans. En 1936, c'était 15 jours de vacances. 90 ans après, c'est 5 semaines de vacances, 11 jours fériés et en plus 10 jours de RTT. Est-ce qu'on a trop de vacances, trop de congés? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec Flora Guebali, Jean-Loup Bonamy et avec Charles Consigny. On terminera tout à l'heure à 12h20, savoir s'il faut interdire de vapoter dans les espaces non fumeurs. Ça, c'est devenu un sujet d'engueulade, pardon pour l'expression, mais c'est-à-dire dans les espaces non fumeurs maintenant, vous avez quelqu'un qui sort une vapoteuse ou même au bureau avec un parfum, un arôme, et on dit non monsieur, vous fumez pas. Et le type vous dit, ou la dame dit, je fume pas, je vapote. Et donc c'est devenu un sujet d'engueulade et on en appelle à la loi de nouveau. Venez en discuter tout à l'heure avec nous à 12h20. D'abord, on va regarder l'anniversaire des congés payés, 90 ans. La France fête les 90 années des congés payés. Alors, est-ce qu'on doit se réjouir? Oui, bien sûr, parce qu'on part de loin quand on regarde ce qui se passait à l'époque. Mais 90 ans après, on est à 5 semaines de congés, je vous le disais, plus 11 jours fériés et 10 jours de RTT.
C'est une loi de 1936, hein, c'était ce qu'on appelait le Front Populaire, donc la gauche rassemblée, qui a décidé de mettre en place les congés payés. Et donc on fête les 90 ans, c'est un anniversaire. Alors depuis, bien sûr, les congés payés ont évolué, ils se sont densifiés. Et aujourd'hui, nous avons au minimum 25 jours de congés payés depuis 1981, depuis que François Mitterrand est arrivé au pouvoir, le retour de la gauche sous la Ve République, 11 jours fériés et les RTT. Et ça, c'est un autre gouvernement de gauche, celui de M. Jospin, qui a instauré les 35 heures. Alors, tout le monde n'a pas les RTT. Un Français sur deux a des RTT. Mais donc, ça fait 25 jours, plus 11 jours fériés, plus une dizaine de jours de RTT. Ce qui fait que la France est l'un des pays qui offre le plus de vacances ou de congés à ses salariés de tous les pays de l'OCDE. Certains disent que c'est trop, qu'on ne travaille pas assez. D'autres disent, attention, ce droit aux vacances, il est important. D'autant plus qu'il y a des millions de Français qui ne partent jamais en vacances. C'est-à-dire qu'ils ont des vacances, mais qui n'ont pas les moyens d'en profiter. C'est ce que dit notamment le Secours Populaire dans son dernier baromètre.
Charles?
Et au risque de vous surprendre, je crois profondément à la nécessité des vacances. Moi-même, je n'en prends pas assez parce que je n'ai pas de congé payé du tout. Hein, il faut avoir conscience que voilà, les professions libérales, les indépendants, les artisans, beaucoup de gens n'ont pas de congé payé du tout. Et quand ils travaillent pas, c'est pour leur pomme, ils se débrouillent. Et donc, il y a pas mal de gens pour qui ça revient très cher de prendre des congés. Mais je crois que c'est indispensable, les vacances, pour l'équilibre psychologique, physique, familial, pour tout ce que vous voulez. Et j'ai observé plein de fois que parfois, il faut même se contraindre à prendre des vacances parce que on revient beaucoup plus d'attaques, y compris professionnellement. On est beaucoup plus efficace, on a beaucoup plus envie de faire des choses, etc. Donc je ne critiquerai pas les congés payés. Je pense que c'est indispensable. Bon, et oui, et par ailleurs, en plus de tout le reste, c'est utile à l'industrie du tourisme. C'est utile à beaucoup de choses. Donc
on n'a pas trop de vacances en France.
Alors certains se démerdent pour en avoir sans doute trop. Je connais pas le détail exact. J'essaye d'interroger ChatGPT sur le sujet, mais ChatGPT est de gauche. Hein. Il faut voir ça comme, mais oui, parce que oui, comme ils vont chercher des sources et que la gauche abonde depuis des années de sa propagande, toute la littérature sociologique possible. Quand vous posez des questions à ChatGPT, vous avez des réponses de gauche.
On va faire une IA libérale. Donc,
il a du mal à me sortir.
C'est vrai qu'il y avait une étude parce qu'en fait ChatGPT va surtout interroger les GAFA, va chercher dans Google, etc., le web, les réponses à tes questions et historiquement, les patrons de GAFA étaient démocrates.
Ils
sont devenus trumpistes par opportunité parce qu'ils sont obligés pour leur business. Mais a priori, ils étaient quand même tous démocrates. Et donc, il y a un biais quand même plutôt de gauche. Mais voilà, je fais la parenthèse.
Les IA sont de gauche, alors on en aura entendu des conneries.
Non, c'est des études.
Les IA, c'est bon, bref.
Si c'est vrai, Flora.
Les études, elles montrent que les IA sont sexistes. Sur les congés payés, pardon, parce que c'est plus intéressant comme débat. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui utilisent leurs congés payés pour s'occuper de leurs enfants, parce que ça, c'est pas des vacances. Pour nettoyer leur maison, faire le ménage, c'est pas des vacances. Pour réparer, faire du bricolage, pour réorganiser la vie familiale, parce que c'est un travail permanent. Et que on peut pas demander aux gens, ce qu'on appelle parfois des congés, ne sont pas des congés, c'est aussi un travail pour s'occuper aussi de leurs aînés, parce qu'il y a énormément de Français qui sont des aidants, et donc aujourd'hui on a besoin des congés payés pour s'occuper de ces aînés. Donc je crois que c'est aussi le contrat social que de considérer qu'on travaille, mais qu'on a aussi le temps de faire du lien, de s'occuper des siens, et que pour beaucoup de Français c'est pas le tourisme, l'image du Club Med. Il y en a très peu des Français qui peuvent se payer des vacances. C'est au contraire le moyen de s'engager pour ses proches.
Monsieur Jean-Loup Bonamy.
Toi qui as 12 semaines.
Exactement. Bon anniversaire.
Exactement.
Au congé payé.
Bah écoute, dans ma position, en effet, ça serait très malvenu de critiquer les congés payés. Et surtout, je pense que globalement, on l'a dit ici, c'est démontré par toutes les statistiques, les Français ne travaillent pas assez. Mais je pense que l'effort ne doit pas du tout porter sur les congés payés. D'ailleurs, en fait, ça bénéficierait assez peu à l'économie de les réduire. Là où
sur
il faut
le
faire,
temps de travail.
Voilà, là où il faut faire porter l'effort, bien sûr, c'est commencer à travailler plus tôt. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui font des études trop longues avec un manque de débouchés professionnels et donc qui entrent plus tard, qui se mettent à cotiser plus tard. Donc, il faudrait aider les jeunes à travailler plus tôt, déjà. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faudrait, pour ceux qui le souhaitent, pouvoir travailler plus d'heures dans la semaine. Donc, défiscaliser complètement, réellement, les heures supplémentaires et les encourager, démanteler les 35 heures. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, en étant payé plus, pouvoir travailler plus pour gagner plus. Et puis aussi travailler plus tard et partir à la retraite plus tard. Parce que c'est pas en partant à 60 ou 62 ans que tu vas pouvoir faire tourner le pays. Donc c'est là où il faut faire porter l'effort sur la quantité de travail. Mais pas, me semble-t-il, sur les jours fériés, ni sur les congés payés, parce que en effet, ça fait vivre le tourisme et c'est quand même important dans l'équilibre psychologique. Surtout, que non seulement le congé payé te soulage du travail, ok, mais il te soulage aussi d'une autre chose. Il te soulage du temps de transport qui, pour beaucoup de Français qui habitent loin de leur lieu de travail, qui doivent se taper les embouteillages ou les galères de transport en commun, c'est une vraie charge, et ben ça les soulage de ça. Et pas seulement du travail, mais aussi de toutes les galères liées au transport. Et ça, ça me paraît quand même très bienvenu. Donc, vive les congés payés et 5 semaines, ce n'est pas de trop.
On va dans l'Indre en discuter avec Laurent, qui est agriculteur à Ruffec. Bonjour Laurent.
Bonjour les GG. Bonjour.
Alors, quand vous entendez parler de vacances, de congés, de jours fériés, de RTT, vous l'agriculteur, ça vous fait quoi alors?
Ouais, je pensais même pas avoir ce discours-là, parce que moi les vacances, les RTT, on n'en parle même pas, les 5 semaines, je dis pas que j'en prends pas avec ma famille un petit peu, mais on est loin de ça. Mais par contre, qu'on nous fiche la paix avec ces réductions de vacances pour ceux qui bossent. Parce que quand vous dites, j'entends tout le temps dire, les Français travaillent pas assez. Non. Les Français qui travaillent, ils travaillent pas mal. Et peut-être même mieux par rapport à la moyenne de beaucoup d'autres pays. C'est le problème quand on rajoute à chaque fois les Français qui bossent pas. Et les autres, c'est ceux-là qu'il faut mettre au boulot. C'est cela. Et le cursus travail total, il augmentera. Et 5 semaines de vacances, ça posera plus un problème, quoi. Donc arrêtons de dire que les Français ne travaillent pas assez.
Ouais, non, vous avez raison, Laurent, c'est ambigu, parce qu'effectivement, quand on dit les Français ne travaillent pas assez, c'est les Français qui ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de Français au travail, voilà. Parce qu'il y a beaucoup, il y a des Français qui partent à la retraite tôt, il y a des Français qui continuent leurs études peut-être un peu trop tard, il y a des Français qui sont au chômage, qui sont dans l'inactivité. Effectivement, vous avez raison. Et tout repose sur ceux qui travaillent.
Exactement. Et à chaque fois qu'il y a des mesures pour faire, entre guillemets, augmenter l'activité, c'est toujours sur les mêmes que ça tombe, c'est-à-dire ceux qui bossent. C'est-à-dire qu'il faut augmenter... Ouais. Alors la retraite, je suis pas contre d'augmenter l'âge de la retraite, ça me pose pas de problème. Même à 56 ans, vous voyez, ça me pose pas de problème, quoi. Je comprends qu'on peut pas durer sur le régime qu'il y a il y a 20 ans que ça dure, quoi. Et l'espérance de vie augmente. Ça, il n'y a pas de souci d'augmenter les choses comme ça. Mais arrêtons de taper tout le temps sur ceux qui bossent, quoi, bordel. Ouais. Et c'est toujours le même raisonnement. On tape. Et par contre, tous ceux qui n'ont pas d'activité forcée, ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus, on ne fait pas.
Mais Laurent, justement, autour de vous, vous en avez beaucoup des gens qui pourraient bosser, qui ne travaillent pas?
Bah, bien sûr, arrêtez de dire que c'est l'exception à chaque fois, quoi. On en voit. Mais alors après, moi, quelque part, je ne leur reproche pas directement, c'est le système. Si le système change, ils vont changer les gens. Ils vont changer les gens. Avant, on n'était pas comme ça. C'est le système qui est devenu comme ça, que c'est tellement facile de se mettre au chômage. Maintenant, moi, j'ai des jeunes. J'ai deux filles qui ont 22 et 28 ans. Elles bossent. Et j'ai la chance qu'elles bossent. Et je dis bien, c'est une chance autour de elles. C'est des CDD que les gens veulent, parce que comme ça, les CDD, hop, on arrête quand on veut, on utilise ses droits au chômage, et c'est reparti pour un tour. Mais c'est pas l'exception, hein. Ne croyez pas que c'est l'exception, cette formule-là. C'est devenu la règle, hein. Et pour des jeunes, et des moins jeunes, hein. Et de se voiler la face, de ne pas le voir, ça. Eh ben, on va dans le mur, on y dit bien dans le mur, de toute façon.
Laurent, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes agriculteur dans quel secteur d'activité?
Alors, polyculture élevage, c'est-à-dire vache à l'étang de charolaise et culture avec l'irrigation, le mot qui tue en plus en ce moment. Mais heureusement qu'on a ça, parce que le changement climatique, ça devient très, très, très compliqué, quoi.
Vous êtes à Ruffec, c'est du côté de la Brenne, là, c'est ça?
Exactement, je suis content d'entendre dire.
À côté du Blanc.
Eh bien, tout à fait, exactement bien. Ça. Non. Ah, très bien. Eh ben, venez faire un tour par chez nous, il n'y a pas de problème.
Pourquoi pas, on viendra avec Louis Gerbier.
Avec grand plaisir,
Laurent. Un dernier mot avec
Louis. Louis vient en vélo, donc il
Louis,
prend du temps.
Qui est du côté de Neuilly-sur-Marne. Bonjour, Louis.
Bonjour.
Vous avez tout? Vous avez les 11 jours fériés, les 5 semaines, les 10 jours de RTT?
Non,
vous avez
non,
la
non,
totale?
J'ai plus que la totale. J'ai 5 semaines de congés payés, plus 24 jours de RTT.
24 jours?
24 jours, ah ouais, bien.
Ouais, bien ça.
Bien joué, là. Comment ça se fait?
Vous doublez, quoi, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est la semaine de 4 jours, quoi, quasiment.
Ouais, à peu près.
Comment vous...
Et puis, avec le télétravail, je fais vraiment 4 jours. Ouais.
Est-ce que...
Ouais, et comment vous faites pour avoir 24 jours de RTT?
Je comprends pas. En fait, c'est rester dans la même boîte pendant 35 ans.
Ah oui.
Et lors du passage aux 35 heures, c'était un contrat qui avait été négocié avec... le comité d'entreprise.
C'est un contrat, c'est un accord local, quoi, un accord dans l'entreprise. Donc finalement, je vous pose la question, avec les 5 semaines, avec les 24 jours de RTT plus les jours fériés, est-ce que vous avez l'impression de bosser beaucoup?
Oui.
Pourquoi?
Parce que je me sens assez productif dans ce que je fais, et puis je suis le cas pour tous mes collègues. Donc on fait notre boulot, et puis tout se passe très bien.
D'accord.
Donc, la direction est contente.
C'est votre conscience professionnelle, quoi, en fait. Vous faites le taf.
Oui, tout à fait, ouais. Et puis bon, je suis un peu soumis à ce contrat qui a été fait.
Contrat de confiance.
Oui, voilà. Donc, tout le monde est content chez nous.
Bah, tant mieux. Vous êtes dans quel secteur d'activité?
Ascenseur.
Ascenseur? Ouais. Ascensoriste, d'accord. Parce qu'on m'avait mis, vous étiez dessinateur.
Oui,
enfin, je dessine des ascenseurs.
Voilà, je fais les études.
D'accord. Merci, Louis, d'avoir été dans les GG. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt dans les grandes gueules.
C'est des droits, hein, c'est des conventions dans son entreprise, mais ça crée quand même une France à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a une France quand même que pouvait symboliser notre agriculteur, qui va ou Didier Giraud, hein, qui doit prendre dans l'année une semaine de vacances parce que avec ses animaux, etc., il peut pas. Et puis une France qui effectivement dans les grandes boîtes en général, qui a les RTT, etc. Voilà. Et ça crée quand même
trois France. Ouais. Parce que tu as celle.
Et après il y a la France qui travaille pas.
Il y a celle dont tu as parlé, c'est-à-dire la France qui travaille mais qui ne gagne pas assez
et en plus,
pour pouvoir partir en vacances et qui se dit bah dis donc lui avec
ses RTT, prend ses jours de vacances mais qui reste à la maison.
Mais qui n'en profite
qui
pas.
Qui va dans la famille en général.
Cinq semaines c'est trop, on a posé la question simplement par pure
provoque. Il faut traiter la famille dans ce cas.
Dans les GG, dans les grandes gueules. Double surtout peine. Si la famille est Richard Ramos. Alors, t'imagines. Qu'est-ce que vous en dites? Vous dites non, 5 semaines. Parce que c'est un comédien, il en fait beaucoup Richard Ramos.
Exactement, tu passes un bon moment avec lui.
Surtout l'ami Jean-Loup. Non, vous dites c'est pas trop 5 semaines. Allez, pour terminer, la guerre à la vapoteuse dans les endroits
on
publics.
On va appeler Mme Borne.
J'en reviens pas qu'il reste encore un sujet, je vous
plaît. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
Je veux dire que.
C'est tout le vendredi, hein.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que.
Chanteur. Franck Michel, toutes les femmes sont belles, ça a été son tube. Je crois que jusqu'au dernier moment, vraiment, il sera monté sur scène en plus.
Ah oui, c'est des chanteurs à l'ancienne, ça veut dire que jusqu'au bout, ils font leur boulot, quoi. C'est leur vie, donc jusqu'au bout, ils montent sur scène et c'est sa fille unique, Sandra, qui a annoncé sur Facebook la mort de son père à l'âge de 79 ans, Franck Michel, avec un public. Il avait un public à lui qu'il a suivi tout au long de sa carrière. Alors, il a fait ce tube-là. Là, on vient de perdre.
D'ailleurs, il y a son biopic au cinéma. Le biopic Michael est consacré à la vie de Franck Michael.
Cancer foudroyant.
Oui, cancer foudroyant, 79 ans.
Ouais.
Son vrai nom, c'était Franco Gabelli. Né à Parme, donc un Italien.
Ouais, il avait son public. J'ai des images de reportage de lui, vraiment sur scène, avec ses femmes d'un certain âge, mais qui venaient jeter les fleurs aux pieds de Franck Michael. Il y avait un côté un peu Elvis. Si tu veux, tu vois, il y a une dévotion, un vrai fan club.
Je pense qu'il y a des gens qui sont tristes.
Mais complètement.
Ah oui.
C'est celui, de toute façon, il y a un proverbe, moi j'aime bien, qui dit toujours, c'est celui qui aime qui a raison.
Tout à fait.
Donc voilà, Franck Michael, qui a disparu, 79 ans, toutes les femmes sont belles, et ça aussi, c'est une vérité. Pour terminer.
Quel charmeur.
Quel crooner.
Ah oui.
Et le successeur de Franck Michael. Ah oui.
Mais Alain pourrait prendre la place de Franck Michael.
Vous venez de me donner une idée. Ouais. Un tour de chant. Est-ce que tu veux composer pour moi, Jean-Loup Bonamy?
Alors écrire les paroles.
Ouais, d'accord.
À mon avis, ça va être des longues chansons.
Des chansons en allemand.
Moi, je peux être ta Claudette.
Ce serait ton auteur.
Pourquoi pas? La Florette.
Voilà. Les Florettes. Des Morteaux, des chansons de Besançon. Les Florettes.
D'accord. Je serais ton auteur.
Toutes les saucisses sont belles.
Des textes à la fois engagés et romantiques.
De Jean-Loup Bonamy.
La semaine de 4 jours serait sa très utile chanson, pour les GG.
Sortir de l'euro.
Oui, mais ça sera un tube. Les gens comprendront pas le sens, mais tu vois, tout le monde dansera sur sortir de l'euro.
Attendez, parce que Flora a dit quelque chose, je pense, de très juste.
Oui, je pense que la semaine de 4 jours serait très adaptée aux GG, parce que vu votre état, là, je pense que vous avez trop travaillé cette semaine. Il reste plus de jus.
Je pense que.
Dans vos neurones, un peu comme le député qui vient de nous dire si vous voulez qu'on garde du jus, pour donner du jus aux GG, il va falloir les mettre un peu au repos.
Non, mais je pense que tu peux faire vraiment un tube avec c'est celui qui aime qui a raison
et tu vas chanter ça dans les maisons de retraite.
Je vais demander à ChatGPT de me la composer. Voilà, j'ai le refrain qui s'appelle C'est celui qui aime qui a raison. Est-ce que tu peux me composer une chanson autour de ça?
Bah, excuse-moi, c'est un peu lâche là.
Alors c'est
j'utilise les outils modernes.
Un peu lâche.
C'est pas un très bon usage de l'intelligence artificielle qui crame quand même beaucoup d'eau.
Oui, je suis d'accord.
Beaucoup d'énergie. On va essayer de la garder pour des sujets plus importants, si tu veux bien.
Et surtout, Bruno Poncet pourra te donner une touche un peu plus punk pour diversifier ton public.
On peut faire un rythme plus rude.
Il pourrait faire une chanson, Bruno Poncet, Ma Chignole.
Je vous propose qu'on fasse un podcast sur quel serait le titre de la chanson de chaque GG YouTube. Voilà. Mais ça, ce sera en podcast. Par contre, là, je pense qu'il faut qu'on travaille encore.
Oui, parce qu'on est sur le vapotage.
Parce que moi, je suis en semaine de 5 jours.
Mais excusez-moi, est-ce que c'est pas un million de fois plus intéressant que le vapotage?
Je peux animer le débat, si
mais pourquoi pas? Voilà. Effectivement.
Alors, est-ce que c'est pas un million de fois plus intéressant que le vapotage?
Quoi? Ah non, mais tiens.
Non, alors, moi, si ça m'intéresse de vapotage.
Ok, allons-y.
Ça t'intéresse le vapotage? Allez, on y va. Go, allez, c'est parti. Allez, la demande de Flora.
Alain, elle avait une proposition.
Non, c'était l'intelligence artificielle, mais allons-y sur le vapotage.
Déjà, est-ce que Frank Michael vapotait?
Michael.
Non, Michael.
L'utilisation de la cigarette électronique dans l'espace public pose aujourd'hui question. 7 Français sur 10 veulent son interdiction dans les zones qui sont dites non-fumeurs. Ils estiment que c'est nocif et que c'est un désagrément.
Alors, vapoter, c'est déjà interdit dans les établissements scolaires, les établissements destinés à l'accueil, à la formation, à l'hébergement des mineurs. Il est de même dans les moyens de transport collectif fermés, dans des lieux accueillant des postes de travail fermés. On n'a pas le droit donc de fumer au bureau. On n'avait pas le droit de fumer à l'Assemblée nationale, mais Madame Borne ne l'avait pas comprise. Donc, elle continue à le faire malgré un règlement qui était ferme. Vapoter, ce que disent les scientifiques, c'est moins nocif que fumer, mais ce n'est pas anodin. Ah ouais. Il y a aussi l'odeur du vapotage qui sort de la cigarette électronique. Wow. Donc, est-ce qu'il faut effectivement maintenant dire aux vapoteurs, mais vous êtes comme un fumeur, vous fumez, vous vapotez, là, on aura de fumer, et ailleurs, c'est interdit.
Flora.
Même la régie, ils sont en semaine de 4 jours là.
Non mais la régie, ça fait longtemps qu'ils ont. C'est le cerveau qui a
commencé à prendre
des substances.
Il vapote en régie d'ailleurs. Je les balance.
Je ne sais pas ce qu'il met dans le vapotage.
Non, moi, ce que je voudrais dire sur la cigarette électronique, c'est que c'est une addiction qui est beaucoup plus forte que la vraie cigarette, du fait que la vraie cigarette, vu qu'on peut que fumer dehors, etc. Quand quelqu'un s'allume une cigarette, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Moi, je vois que les personnes qui vapotent, elles le mettent à la bouche sans s'en rendre compte. Oh mince, désolé, je me suis pas rendu compte. Moi, j'étais avec une amie dans un train et elle vapotait des nuages de fumée. Je lui dis mais tu sais que t'as pas le droit. Ah mince, je me suis même pas rendu compte que j'étais en train de vapoter. Et en fait, ce qui est incroyable avec la vapoteuse, c'est que ils sont addicts, mais à un niveau qui est considérable. Et donc, en fait, il faut absolument mettre des règles, même pour eux, pour les aider. Parce que sinon, là, il se trouve que les études montrent que c'est nocif. Alors, c'est moins nocif que la cigarette, mais que c'est nocif quand même. La question, c'est que si on a la vapoteuse au bec du lever au coucher, est-ce que l'impact est plus fort que si on fume que quand on peut être dehors? Donc, ça pose question.
Waouh! Le niveau de puritanisme atteint par la société française. Voilà. Oui, alors là, j'ai l'impression d'être devenu un peu dans une sorte des talibans anti-tabac.
Non, t'es devenu américain.
Oui, voilà aussi une sorte d'américanisation.
Je suis anti-tabac, mais en fait, c'est ce qui fait des trous dans la sécu, donc c'est dans l'intérêt général.
Non, mais ça, je comprends bien, mais maintenant, alors, il faut s'en prendre. Déjà, je crois qu'on a un peu d'autres problèmes, parce que tu me dis 7 Français sur 10. J'aimerais savoir combien il y a de ne se prononce pas dans le sondage. Ça serait déjà intéressant de savoir les gens qui ont émis un avis sur cette question, parce que je pense qu'on a d'autres problèmes prioritaires pays, quand même. Et deuxièmement.
Mais ça devient des sources de conflits au bureau. Ouais, aujourd'hui, la vapoteuse, je peux te le dire.
Oui. Ah non, mais tout devient une source de conflit. Ah,
aujourd'hui, non, tout pas devient la cigarette, parce que la cigarette, c'est acté pour tout le monde. Ouais. On fume
et
pas.
Tu sors, tu vas devant l'immeuble.
Tu vas dehors, mais le vapotage, c'est pas encore ça. On n'y est pas à ça.
Et non, mais c'est bon, il faut se détendre un peu, les gars, là. Oh, c'est.
On vapote dans ta classe?
De quoi? Non, parce que c'est interdit. Mais.
En salle des profs.
Écoute, moi, je vois personne vapoter, mais si je voyais quelqu'un vapoter, j'irais pas lui taper sur l'épaule pour faire le relou, quoi.
Ah oui.
Et puis, franchement, Elisabeth Borne qui vapote dans l'Assemblée nationale, ça n'est pas vraiment choqué.
Elle l'humanise.
Voilà, oui.
Ça la rend sympathique.
C'est
sans
quand
ça,
même.
T'es pas sûr que c'est un être humain.
Ça peut être un cyborg. Un cyborg. Et donc voilà, c'est quand même. Détendez-vous, quoi. Là, il y a, je sais pas, il y a une sorte de crispation donc, et puritanisme.
Foutons la paix aux gens.
Foutons la paix aux vapoteurs.
Non, moi, je n'aime pas la
clope. Et je ne vapote pas.
Électronique qui sent le foin. Vous savez,
c'est vrai que ça sent pas
notre
bon.
GG Laura Varton Martinez, oui. Que je salue. Elle vapote une cigarette électronique qui sent le foin pourri.
Elle est souvent à côté de moi pendant 3 heures.
Ou alors qui sent l'œuf,
d'ailleurs.
Qui sent l'œuf pourri, voilà, voilà.
C'est vrai, elle l'a dit un jour elle-même.
En revanche, les autres, bon, foutons la paix aux gens, je suis un peu d'accord avec Jean-Loup. Si ta clope électronique sent pas trop mauvais.
Parfum, pomme, double pomme.
En vrai, ça dérange pas plus que quelqu'un qui pue.
Non. Jamais fumé.
Non, mais par contre, là, il y a des études. En fait, c'est marrant, les gens comme Jean-Loup qui disent arrêtez de faire chier les vapoteurs. C'est les mêmes qui disaient en 2005, un truc comme ça, quand le tabac était interdit des espaces publics, arrêtez de faire chier les fumeurs. C'est les mêmes qui disent arrêtez de faire chier les agriculteurs avec les pesticides. Et c'est les mêmes qui disent arrêtez de faire chier les buveurs avec l'alcool. Sauf que le temps donne toujours raison à ceux qui veulent faire de la prévention et de la santé publique. Ce sont des produits qui tuent. Donc en fait, alors on peut dire que chacun a le droit de se tuer, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, sauf que on est tous interdépendants puisque on paye un truc qui s'appelle des impôts pour financer un truc qui s'appelle la sécurité sociale. Donc on vit tous ensemble.
Donc du coup, t'es pour taxer davantage les obèses.
Mais aider les obèses à mincir, oui, je suis pour parce que c'est une maladie et que ça les met en danger.
Le vapotage, ça aide quand même des fumeurs à sortir du tabac.
Oui,
il y a quand même beaucoup de gens qui sont sortis du tabac grâce à ça.
Et précisément ce que j'ai dit, vapoter c'est moins grave que fumer, mais vapoter du lever au coucher partout, c'est dangereux.
Non. Merci mes chers GG, passez un bon week-end. Si j'ai bien compris pour certains, il était temps. Bonjour Estelle Denis, bienvenue dans les GG, dans les grandes gueules. Ah oui, votre micro.
Estelle
Denis,
elle n'est pas en semaine de 4 jours, contrairement à vous.
Mais non, je ne vapote pas, bien sûr. Je n'ai pas ce que. Je n'ai pas
une hygiène vices, de vie irréprochable.
Pas toujours, mais je n'ai pas ces vices-là, en tout cas. Dans un instant, nous, on va parler de ce nouveau raté dans l'affaire Liana. Vous savez que, en fait, il y a la police américaine qui avait signalé Jérôme Barella, mais la justice française n'a jamais eu reçu ce signalement. Est-ce que Gérald Darmanin doit démissionner? Il y a plusieurs politiques qui appellent à ça, en tout cas. On en débat avec vous dans un instant. On va parler de la Coupe du Monde avec ses primes promises aux Bleus en cas de victoire. 500 000 euros. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est indécent?
C'est Mbappé qui a négocié, apparemment.
Bah écoutez, il négocie bien. En tout cas, là, pour le coup, il ne négocie
pas. Est-ce qu'on peut l'appeler pour qu'on puisse négocier notre salaire?
Il ne rate pas le cadre dans les négociations, Alain. Nous allons parler aussi de la Coupe du Monde avec des arrêts maladie qui se multiplient, des RTT, du télétravail. Est-ce que vous allez lever le pied durant la Coupe du Monde? C'est 14 milliards le coût de la Coupe du Monde pour les entreprises partout dans le monde, parce qu'évidemment on est un tout petit peu moins productif quand notre équipe joue.
Avec le décalage horaire, les matchs la nuit, je comprends.
On risque de jouer à 3h du matin. Donc est-ce que vous allez poser un RTT si la France par exemple affronte le Brésil à 3h du matin un lundi? Est-ce que le mardi vous serez au boulot? C'est la question
c'est
qu'on vous
posera. C'est très intéressant le foot.
Ça, ce sera... Oui, c'est très intéressant.
Les gens,
c'est faire société, Charles. Mais oui, il y a
non, mais après interdiction de la brocante, il va interdire 22 le foot. Venez vivre dans le
pays.
Oh là là, mais mon Dieu, mais je préfère de rien. Bon, bref. Le tu préfères, est-ce qu'il faut en finir avec la journée type de travail 9h-17h?
Ah oui.
C'est un cabinet américain qui dit que d'ici 2050, ces horaires-là, ce sera absolument terminé, qu'il faut que ça s'organise différemment. Et puis, et le tu préfères?
Matou français 32-16 pour en parler en avec français. Estelle. Bonne émission jusqu'à 15h.